Le journal vous est présenté par Yves Decamp. Bonsoir Yves.
Bonsoir. Plus de 51% de participation au scrutin des européennes selon les estimations d'Ipsos Soprasteria, partenaire officiel de France Inter. Les électeurs se sont beaucoup plus mobilisés qu'il y a 5 ans. Le taux de participation était déjà à 17h de 43%, 8 points de mieux qu'en 2014. À qui ce regain d'intérêt aura-t-il profité? Réponse bien sûr à partir de 20h. Tous les enjeux de cette élection européenne en France et dans l'Union, on en parle dans ce journal et juste après avec vous, Claire Servageant.
Effectivement, bonsoir Yves. À partir de 19h15 et puis ensuite donc à partir de 20h les estimations de notre partenaire Ipsos Soprasteria. Sachez que toutes les équipes de Radio France en général et de France Inter en particulier sont sur le pont, que ce soit ici le service politique ou nos correspondants, nos envoyés spéciaux dans les capitales européennes. Alors surtout restez à l'écoute, on vous dira dès que possible à quoi ressemblera le futur Parlement européen. Et puis évidemment, on tirera les leçons politiques de ce scrutin pour la France.
Dans l'actualité de ce dimanche également, la fusion annoncée de Renault avec le groupe Fiat Chrysler. L'opération non encore officielle donnera naissance au premier constructeur automobile mondial. Les Japonais de Nissan n'ont pas été impliqués dans les pourparlers. 3 djihadistes français condamnés à mort en Irak pour avoir rejoint le groupe État islamique. Leurs avocats qui dénoncent une justice expéditive appellent le gouvernement français à intervenir. Ils ont 30 jours pour faire appel. En sport, pas de JDS ce soir, mais des résultats. Le premier jour de Fabrice Abgral à Roland-Garros pour la victoire de Federer et de Nicolas Mahut, entre autres. La victoire de Lewis Hamilton à Monaco et puis Bayonne, champion de France de Pro D2, qui fera son retour la saison prochaine dans le top 14. Enfin, la météo, des averses pour tout le monde. Demain, lundi, excepté près du Rhône et dans le Languedoc-Roussillon. Plus de 43% de participation à 17h, selon les chiffres du ministère. C'est plus de 8 points de mieux qu'en 2014 pour les précédentes européennes. Le regain d'intérêt enregistré à la mi-journée s'est donc confirmé et même amplifié. Les estimations de l'Institut Ipsos Soprasteria pour France Inter font même état d'une participation qui se situerait en définitive à plus de 51%. Yann Gallic, des bureaux de vote sont encore ouverts dans les grandes villes jusqu'à 20h, mais on peut d'ores et déjà constater que les appels à voter ont été entendu.
En effet, à 17h, la participation était déjà supérieure au taux de participation définitif enregistré lors des précédentes élections européennes. Et si l'on compare avec les derniers scrutins nationaux, les Français ont même plus voté qu'aux législatives de 2017. Les électeurs se sont donc déplacés en nombre aujourd'hui, surtout dans les départements ruraux. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, la participation dépasse les 50% dans l'Aveyron, l'Indre et l'Ardèche. Dans certains départements, la mobilisation électorale est visible par rapport aux dernières européennes, notamment dans le Pas-de-Calais, où la participation atteint presque 49%, soit 14 points de plus qu'il y a 5 ans. Une hausse de 20 points dans l'Ain et de presque 18 points dans le Rhône. L'augmentation est également sensible dans le Gard et les Bouches-du-Rhône. Avec une participation d'environ 30% seulement à 17h, c'est en Seine-Saint-Denis, en Corse du Sud et dans les Alpes-Maritimes que les électeurs se sont le moins mobilisés. Pour l'instant, Paris est en dessous de la moyenne nationale et affiche seulement 37% de participation. Mais dans la capitale, comme dans la plupart des grandes villes, les bureaux de vote restent ouverts jusqu'à 20h.
Alors à qui ce regain de participation aura-t-il profité? Réponse à 20h pour les premières estimations du partenaire de France Inter, Ipsos Soprasteria, dont vous êtes le directeur du département Opinion, Stéphane Zumsteig. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors pour l'instant, les estimations portant sur la participation indiquent ce taux très inattendu de 51,3% qu'on peut expliquer comment? Qu'est-ce qui a motivé plus que d'habitude les électeurs?
C'est très probablement la dramatisation voulue par les uns et les autres dans les derniers jours de la campagne qui a eu un impact positif sur cette participation. Très clairement, alors on verra évidemment à 20h à qui ça a profité le plus et à qui ça a profité le moins, mais ce que je peux vous dire, c'est que traditionnellement, quand on mesure un sursaut au dernier moment de la participation, il n'est pas réparti équitablement sur les différentes forces. Il y aura forcément des listes à qui ça aura plus profité que d'autres.
De plus en plus d'électeurs, en tout cas, s'intéressent à cette élection européenne dont certains voulaient faire un test politique nationale et de fait, hein, première élection du quinquennat Macron, la crise des gilets jaunes pas même terminée, Yael Gauz, les résultats de ce soir reflèteront aussi forcément une situation française.
Oui, ce seront des mid-terms à la française, hein, ce terme qu'on utilise aux États-Unis pour désigner les élections à mi-mandat. Bien sûr, il y a l'Europe, ses enjeux, l'avenir du continent, mais aussi, et Stéphane Zumsteig le disait, la campagne, la dramatisation des derniers jours y ont largement contribué. annoncer un stop ou encore à la politique menée depuis 2 ans. Et donc évidemment, on regardera de près qui de la liste RN de Jordan Bardella ou de la liste Renaissance de Nathalie Loiseau termine en tête. Emmanuel Macron a nationalisé, personnalisé l'enjeu. Marine Le Pen en a fait un référendum pour le sanctionner, jusqu'à demander son départ en cas de deuxième place. Cette hystérisation réciproque du duel, du remake de 2017, a-t-elle fonctionné et provoqué ce sursaut constaté dans les bureaux de vote ? Mobilisation inédite depuis 25 ans, mais on ne sait pas au profit de qui.
Et puis Yael, au-delà, il y a d'autres enjeux déterminants pour les municipales l'an prochain et la prochaine présidentielle.
Oui, quel sera le score des Républicains ? Regain ou convalescence prolongée ? Le plus bas historique remonte à 1999, quand Nicolas Sarkozy avait fini sous les 13%. Alors combien feront les LR et combien feront les socialistes qui doivent impérativement faire 5% au moins pour ne pas disparaître du Parlement européen ? LR, PS, ces deux partis de gouvernement seront-ils à nouveau victimes du dégagisme amorcé il y a 2 ans ? Et puis, question sur l'avenir de la gauche, Yves, une gauche éparpillée comme jamais. Qui prendra le leadership ce soir d'une recomposition incertaine ? Les écologistes ? Les insoumis ? On a hâte de vous répondre sur Inter dans 54 minutes maintenant.
À peu près. Au-delà des enjeux de politique française, rappelons qu'il s'agit d'envoyer au Parlement européen 79 députés pour la France, 751 en tout pour l'Union. C'est pour l'Europe que les enjeux, bien sûr, sont les plus importants. Angélique Bouin, vous êtes à Bruxelles, où ce qu'on va particulièrement regarder tout à l'heure, c'est le rapport de force entre les pro-européens et les nationalistes.
Oui, on scrutera notamment avec attention le score de la Ligue italienne de Matteo Salvini, qui, avec son allié le Rassemblement national, veut créer un groupe puissant ici au Parlement. Voilà deux partis critiques de l'Union européenne telle qu'elle fonctionne actuellement, mais une dizaine d'autres plus petits dans d'autres pays pourraient les rejoindre et la question sera de savoir s'ils sont assez nombreux pour peser. À regarder de près également le score des libéraux et des centristes dans les 28 pays de l'Union, car avec l'apport des députés La République En Marche, ils veulent devenir un groupe pivot, un groupe dont les deux grandes familles politiques, le PPE, la droite et les socialistes, les partis des pères fondateurs, pourraient avoir besoin s'ils perdent ce soir leur majorité à eux deux. Depuis 1979, ils l'ont toujours eu. Les Verts européens ont également l'ambition de devenir incontournables. La mobilisation mondiale des jeunes pour le climat leur a donné des ailes. Mais on aura des résultats officiels ici et une vraie photo des rapports de force que tard dans la soirée, après la fermeture des bureaux de vote en Italie, c'est à 23h.
Angélique Bouin, à Bruxelles, avec les premiers résultats en Allemagne, où les bureaux de vote ont fermé, premières estimations sorties des urnes. La CDU en tête, mais en baisse à 28%. Les Verts, deuxième à 22%. L'extrême droite est à 17,5%. En Autriche, le parti conservateur au pouvoir progresse fortement à 34,5. L'extrême droite est en recul de 2 points à 17,5. On y revient donc juste après ce journal dans l'émission spéciale consacrée à ces élections européennes. Vers un nouveau géant mondial de l'automobile, parallèlement à l'alliance Renault-Nissan, c'est avec le groupe italo-américain Fiat Chrysler que le constructeur français pourrait également s'allier. L'annonce devrait être, selon l'AFP, officialisée demain. L'objectif à terme serait d'aboutir à une fusion, mais quelle sera la réaction des Japonais ? De sources proches du dossier, il semble que Nissan n'ait pas été impliqué dans les pourparlers. Ce rapprochement Renault-Fiat créerait un ensemble de 16 millions de véhicules très au-dessus de Volkswagen ou de Toyota et renforcerait en tout cas le poids des Français dans l'alliance avec Nissan.
Le journal de 19h. Sur France Inter.
À l'étranger, 3 Français condamnés à mort en Irak pour avoir rejoint le groupe État islamique. Ils sont les premiers d'un groupe de 14 Français parmi 300 détenus capturés en février dernier par les forces démocratiques syriennes. 3 autres Français avaient déjà été condamnés à perpétuité, mais jamais à la peine de mort, dont le gouvernement français a déjà rappelé qu'il ne pourrait pas l'accepter. L'un des avocats des 3 djihadistes, le Français Maître Boudi, l'appelle donc à intervenir. Il est au téléphone de Villiers-Poujade.
Le ministère des Affaires étrangères nous avait garanti que les ressortissants français avaient droit à un procès équitable, que les droits de la défense allaient être respectés. Donc écoutez, c'est une situation qui est très inconfortable pour l'État français. Emmanuel Macron avait annoncé lors de la venue du Premier ministre irakien qu'il n'accepterait pas que des Français soient condamnés à la peine de mort. Aujourd'hui, il est face au fait accompli. Donc selon sa logique, la France doit intervenir immédiatement.
Qu'est-ce que vous demandez à l'État français aujourd'hui ?
D'intervenir en urgence et de respecter sa parole en nous disant: la France condamne fermement toutes les condamnations à la peine de mort. Dans la mesure où il y a eu un deal entre l'État français et l'État irakien, la France est en capacité aujourd'hui de dire non à la condamnation à la peine de mort et de cesser sur place ce fiasco judiciaire, parce qu'il y en a d'autres qui seront jugés.
Les avocats des trois djihadistes ont 30 jours pour faire appel. Aucun candidat à la présidentielle en Algérie. La date limite de dépôt des candidatures a expiré hier à minuit. Le Conseil constitutionnel n'a reçu aucun dossier. En tout cas, rien n'émanant de l'opposition. Des médias font état d'une candidature à un militaire à la retraite, ancien du FLN, le parti au pouvoir, mais rien n'est confirmé. L'élection prévue le 4 juillet pourrait en tout cas être reportée, conformément d'ailleurs à ce que demandent les manifestants qui restent mobilisés tous les vendredis pour réclamer une réforme du système dans son entier. En sport, en tennis, c'est ce qu'on appelle un retour gagnant. Roger Federer, de retour à Roland-Garros après 4 ans d'absence, n'a pas raté son entrée dans le tournoi. Pas trop difficile pour lui, cela dit, face au 73e mondial, l'Italien Sonego, battu en 3-7. Deux Français sont passés à la trappe dès ce premier tour, Quentin Alice et Hugo Humbert. Un gros match en revanche pour Nicolas Mahut, qui est lui aussi âgé comme Federer de 37 ans, Fabrice Abgral.
Oui, et puis n'ayons pas peur des mots, il a réalisé un véritable exploit. Nicolas Mahut qualifié donc pour le deuxième tour, contre toute attente, il faut bien le dire. L'Angevin a écarté de sa route le demi-finaliste de l'an passé, l'Italien Marco Cecchinato, 19e mondial, un joueur spécialiste de la terre battue, alors que Nicolas Mahut était mené 2-7 à 0 face à ce joueur. Donc Marco Cecchinato, Nicolas Mahut lui est 353e joueur mondial, invité par les organisateurs. Nicolas Mahut s'est imposé en 5-7 au terme d'un match de 3h22. Nicolas Mahut s'est imposé avec brio, avec panache. Il a trouvé les ressources nécessaires, en tout cas pour remonter cet handicap de 2-7-0. Il a trouvé des ressources mentales et physiques pour finalement revenir dans le match et gagner le droit donc de disputer le deuxième tour, lui, l'attaquant adepte du service volé, âgé, vous l'avez dit, de 37 ans, mais toujours aussi motivé, toujours aussi audacieux, une véritable remontada de la part de Nicolas Mahut. Ce n'est que la deuxième fois de sa carrière qu'il remonte un handicap de 2-7-0 dans un tournoi du Grand Chelem.
Et la première sensation de ce Roland-Garros, c'est l'élimination de l'ex-numéro 1, l'Allemande Angelika Kerber, battue en 2-7 par la Russe Potapova. Les Basques qui retrouvent le top 14 après la victoire de Bayonne sur Brive en finale de Pro D2. Match très disputé, gagné 21-19. Bayonne reviendra donc parmi l'élite la saison prochaine, mais tout n'est pas perdu pour les Corréziens qui joueront encore leur possible accession dimanche prochain contre Grenoble, le 13e du top 14. Et puis au Grand Prix de Monaco, 4e victoire de la saison pour Lewis Hamilton, mais pas de doublé pour Mercedes. Course marquée par le souvenir de Niki Lauda une semaine après sa mort. Résumé de cet après-midi à Monaco, Jean-Pierre Blimaud.
Lewis Hamilton était parti en pole position. Il a résisté à Max Verstappen qui a pris 5 secondes au passage pour avoir gêné Bottas dans les stands. Le Britannique n'a pas craqué malgré les pneumatiques très endommagées, malgré la pression du Néerlandais qui a d'ailleurs tenté de dépasser Hamilton dans la chicane en sortie de tunnel en fin de Grand Prix. Le Britannique n'a pas commis de faute, ont estimé les commissaires, et a donc pu obtenir à la régulière cette victoire dont il se souviendra. Monaco n'est pas un circuit de prédilection pour Hamilton. C'est seulement entre guillemets la 3e victoire en principauté pour le champion du monde. Une 77e victoire en Grand Prix de F1. Belle course pour les deux Français en lice. Pierre Gasly emmène sa Red Bull à la 5e place. Romain Grosjean, malgré une pénalité de 5 secondes, entre dans les points et prend la 10e place. Une seule Renault dans les points, celle de Daniel Ricciardo, 9e. La déception, c'est pour le jeune monégasque Charles Leclerc, qui a dû abandonner au 21e tour après avoir endommagé sa Ferrari en tentant de dépasser la Renault de Nico Hülkenberg. Parti en 15e position après une erreur de stratégie de Ferrari dans les qualifications, le jeune monégasque avait d'abord doublé deux concurrents avant de jeter l'éponge. Monaco, Jean-Pierre Blimaud, France Inter.
Ce qui nous amène à la route, la vraie.
Point route avec les cours Legendre. Cours à domicile, stages de révision et cahiers de vacances par des professeurs de l'éducation nationale. Info, cours-legendre.fr.
Un accident dans le Tarn-et-Garonne, Soisigbourg.
Exactement, sur l'A20 à hauteur de Moulis quand vous venez de Montauban direction Toulouse. Il y a 50 minutes de bouchon en amont de Pêche-Boyer jusqu'à Bressols. Du monde, il y en a aussi dans l'Hérault sur la 75 quand vous venez de Clermont-Ferrand direction Béziers. 20 minutes de Saint-Félix-de-Léras jusqu'à Soubès à cause de travaux à hauteur de Péguérolles de l'Escalette. Et puis dans le Nord, ça bouchonne sur la 25 entre Dunkerque et Lille, près d'une demi-heure entre Métairin et la Chapelle d'Armentières.
Soisigbourg au PC Mobilité de Radio France, le temps.
La météo avec Air France. Et la France est plus proche. Envolez-vous du nord au sud et de l'est à l'ouest en moins de 2 heures. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Jean-Michel Golinski.
Excepté le soleil persistant sur les régions situées près du Rhône, également sur le Languedoc et le Roussillon, demain tout le monde aura droit aux pluies ou aux averses, avec un temps globalement bien maussade sur la Corse, où le vent de nord sera sensible. On notera également un mistral et une tramontane turbulents. Au nord de la Loire, les pluies arrivées par la Manche dans la nuit vont donner une matinée maussade. En journée, cette perturbation va se décaler vers les Pyrénées, le Massif central, le centre et le nord-est, avec à l'arrière une belle amélioration l'après-midi entre la Manche, le Poitou-Charentes, le bassin parisien et Champagne-Ardenne. Enfin, des Alpes à la Provence, des averses parfois orageuses vont rythmer l'après-midi. Les températures vont évoluer dans les mêmes grandeurs qu'aujourd'hui, entre 10 et 14 degrés le matin, 20 à 24 en général l'après-midi, ponctuellement jusqu'à 28 sur l'Hérault et le Gard.